L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Le requin taupe, on a fait sa connaissance il y a quelques mois avec notre invité qui les étudie de près puisque sa thèse est consacrée au rôle fonctionnel des zones côtières pour l'écologie du requin taupe. L'AMNA NASUS, application à la zone côtière du Trégor. Voilà, ça c'est encore un sujet de thèse qui finalement n'est pas trop compliqué à comprendre. C'est un programme donc de l'APEX, association qui s'intéresse aux requins et aussi aux raies, qui est donc réalisé en collaboration avec le laboratoire des sciences de l'environnement marin, le LEMAR. Notre invité intervient au nom de l'UBO, l'université, c'est Sandrine Serre. Dans une précédente émission, elle nous a présenté le requin taupe qui mesure 2 voire 3 mètres, qui apprécie les eaux de 5 à 15 degrés plutôt au large, mais ponctuellement côtier, et qui mange maquereau, chinchard, calamar, sèche, des poissons pélagiques. Lui-même a été beaucoup mangé, le requin taupe, sous la forme de la marèche sur les étals du poissonnier, mais il est interdit de le pêcher depuis 2010. Bonjour Sandrine Serre.
Bonjour Véronique.
Alors, dans la précédente émission qui avait eu lieu finalement, on avait eu peu de temps pour aborder les déplacements. Or, c'est le sujet de cette thèse, les déplacements du requin taupe. Alors, quels sont les déplacements qu'on connaît déjà des requins taupes communs?
Oui, alors effectivement, le requin taupe commun, c'est une espèce qui est quand même assez présente dans le monde et donc qui a été pas mal étudiée en Atlantique Nord, donc que ce soit chez les Canadiens ou chez nous, côté Europe. Et à l'heure actuelle, tout converge pour dire que, il semble, enfin, en tout cas, tout montrerait, porte à croire qu'elles passent l'hiver, les requins taupes passent l'hiver au large, sur les grands fonds ou à proximité du plateau continental dont on avait parlé la dernière fois, donc sur des profondeurs plutôt, enfin, dans la colonne d'eau, entre 500 et 2500 mètres de fond. C'est pas là où elles vont, mais c'est la profondeur qu'on observe dans ces endroits-là.
Donc ça,
c'est en hiver. Et il y aurait une migration, un espèce de retour à la côte en été. Et en automne, c'est pareil, elle repartirait vers le milieu océanique. Mmh. Donc on aurait une grande migration très saisonnière, très marquée, avec la fréquentation de zones avec des fonds de 0 à 200 mètres en été. Et un rapprochement potentiel aussi des côtes et un retour au large en hiver.
Pour les requins, quel que soit leur sexe, parce que c'est vrai qu'on parlait plutôt des requins en l'occurrence, nous.
C'est vrai que nous, on regarde que les femelles parce qu'on n'a que des femelles, mais en l'occurrence, c'est pour tous les individus, quel que soit leur sexe et quel que soit leur stade de maturité. C'est-à-dire que c'est les adultes et les juvéniles qui sembleraient avoir ce schéma saisonnier assez caractéristique.
On peut parler d'espèces migratrices pour des poissons comme pour des oiseaux, je ne sais pas, enfin, ça se dit
Oui. On peut utiliser le terme de migration. En fait, la migration, c'est ce que nous, on caractérise comme étant un phénomène qui revient régulièrement et qui en fait, les animaux font un compromis entre la possibilité de s'alimenter, donc de faire un gain en énergie, et les dépenses en énergie qu'ils vont devoir faire.
Et oui, parce que quand on se déplace, on dépense de l'énergie.
Exactement. Ah, donc, oui. En fait, pour pouvoir se déplacer, il faut que ça vaille le coup de se déplacer pour aller sur une zone plus propice. Et donc, en fait, les zones plus propices sont souvent caractérisées par la présence de proies pour s'alimenter, et aussi un gros paramètre qui influence énormément les distributions dans le milieu marin, la présence des espèces, c'est la température.
Oui, surtout pour le requin taupe. On va peut-être rappeler un peu sa physiologie spécifique.
Enfin... Exactement. En fait, la plupart des poissons, pour revenir aux poissons, sont ce qu'on appelle les ectothermes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de machine métabolique qui leur permet de se réchauffer. Donc, ils sont extrêmement dépendants de la température de l'eau. Donc les poissons sont très très dépendants des gammes de température dans lesquelles ils se trouvent. Il faut savoir que le métabolisme, c'est la capacité à chasser ou à éviter un chasseur, à se reproduire et à se déplacer. Donc en fait, c'est toutes les fonctions de base qui sont assurées dans une gamme de température adaptée. Le requin taupe commun, c'est pour ça qu'il est capable, comme tu l'as rappelé en début d'émission, de supporter des grandes températures, enfin une grande fenêtre de température de 5 à 18 degrés.
Ça paraît pas si énorme, mais en fait c'est gros quoi.
En fait c'est gros, parce qu'ils n'ont pas de vêtements à enfiler, c'est-à-dire que c'est un peu comme si nous on vivait tout nu, on aurait notre gamme de température qui serait pas tout à fait la même. Mais nous on est des endothermes, donc nous on est capable de générer notre propre chaleur, et c'est un mécanisme qui est assez spécifique aussi. Et donc les requins sont entre les ectothermes et les endothermes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vraie machinerie interne comme nous pour générer de la chaleur, mais ils ont un système d'optimisation des pertes de chaleur qui leur permet de maintenir leur corps à plus de 10 degrés au-dessus de la température de l'eau. C'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins dépendants de la température à laquelle ils se trouvent que d'autres espèces d'ectothermes qu'on va trouver. Donc ça, c'est assez spécifique parce qu'en réalité, il n'y a que 6 espèces de requins qui sont capables de faire de l'endothermie, qui appartiennent tous à la même famille des lamnidés, donc la famille du requin taupe commun. Et on va aussi avoir les thons. La plupart des thons sont capables de faire de l'endothermie. Et les spadons.
Il faut être un assez gros poisson pour pouvoir faire ça, peut-être, non ?
Alors, c'est des assez gros poissons qui ont aussi, pour la plupart, à part pour les spadons, la présence d'un muscle un peu particulier qui est le muscle rouge, qui est très interne, très localisé près des organes et qui leur permet en fait d'optimiser les échanges d'oxygène et qui les rend très performants en termes de nage. Et c'est un muscle qui dégage de la chaleur quand il est en activité et c'est ce qui leur permet aussi de maintenir leur température. Donc en fait, on est quand même sur un petit nombre d'espèces qui sont extrêmement performants en termes de capacité par rapport à leur environnement.
Donc ça, c'est lié à leur régulation de température, mais est-ce que ça peut être lié aussi au fait à la façon dont ils nagent ? Enfin, j'en sais rien.
La plupart du système qu'on appelle le réseau admirable, donc la Rétia mirabilis en vrai, mais c'est réseau admirable en français, est localisé en fait tout le long des organes qui nécessitent d'avoir une température élevée pour pouvoir réaliser les fonctions vitales. Donc en fait, elle est localisée autour des yeux. Ça leur permet d'assurer une vision quasiment en permanence.
Ouais, c'est très important apparemment pour.
C'est ça. Sur les lamnidés, semblerait que les yeux et donc le cerveau aussi soient bien conservés. Enfin, que ce soit partie des organes soient protégés par ce réseau admirable. Le système gastrique qui leur permet en fait d'assurer la digestion, quelles que soient les conditions de température. Parce que la digestion est impactée aussi par la température ambiante et autour des muscles de la queue. Et donc là, c'est pour la locomotion. Et en fait, les muscles de la queue, notamment, quand ils sont en activité, c'est-à-dire quand l'animal est en nage, il y a des phénomènes moléculaires qui se passent au niveau du muscle, comme chez nous. Quand on cherche à se réchauffer, souvent on frissonne. Et en fait, c'est la mise en activité des muscles pour générer de la chaleur. Parce qu'en fait, la mise en activité des muscles génère de la chaleur. Et donc, comme le réseau admirable est situé autour des muscles, ça permet de conserver, comme un petit thermos, la température à l'intérieur.
Alors, ces requins taupes se déplacent donc parce que pour des questions de nourriture. Enfin, comment on sait que c'est pour des questions de nourriture et pas, par exemple, je sais pas, de reproduction comme pour les saumons. Enfin.
Alors, ça pourrait être aussi pour la reproduction. Hein. Ça fait partie des grands mécanismes qui sont vecteurs de cette migration, enfin qui poussent cette migration. Ça va être tous les aspects en fait liés, on va dire, de façon générale, un peu de façon rationnelle, à la survie de l'espèce. Et la survie, elle passe par l'alimentation de l'individu, donc la survie de l'individu. Donc là, c'est les migrations qui sont pour trouver des zones propices, notamment à l'hivernage, par exemple. Donc pour retrouver des conditions favorables.
Comme pas trop froides.
Pas trop froides, comme les oiseaux migrateurs qui partent en Afrique en hiver pour retrouver un climat un peu plus favorable et aussi des sources de nourriture. Et ensuite, il y a pour la reproduction. Et donc là, c'est de la migration vers des zones qui sont propices au développement des petits qui se développeront en fait dans la zone.
Et pour le requin taupe, alors il ne faut pas que ça soit trop chaud non plus. Enfin, on est d'accord qu'elles ne sortent pas de l'Atlantique en gros. Quoi. Enfin, elles ne vont pas dans le sud. Quoi.
Alors, on pense qu'il n'y a pas de connexion entre les populations de l'Atlantique Nord et de l'Atlantique Sud. Donc ça a été montré par des études de génétique. Et en fait, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a une barrière équatoriale qui en fait est posée par justement le fait que les eaux soient trop chaudes pour permettre le déplacement. Après, voilà, il y a des systèmes de courants à l'échelle mondiale qui permettent aussi d'avoir des mouvements d'eau chaude et d'eau froide. Et donc, par exemple, c'est ce qu'elles font du côté de l'Atlantique Nord-Ouest, donc chez nos voisins, où elles se mettent dans les courants froids pour pouvoir descendre de façon plus équatoriale.
Mmh, mmh. D'accord, alors vos requines, là, qu'on appelle les manchoises, parce qu'elles sont dans la Manche, il y en a combien alors que vous observez ? Comment est-ce que vous les observez déjà ?
Alors du coup, on les a équipées de balises. Donc les balises, en fait, c'est des systèmes qui collectent de l'information donc, là, à l'heure actuelle, les nôtres sont à peu près toutes les 5 secondes. Elles collectent une information sur les niveaux de température, les niveaux de profondeur, enfin de pression en fait, et les niveaux de lumière.
D'accord.
Et comme on est sur un poisson et qu'il ne va pas forcément revenir à la surface, ce n'est pas des systèmes qui sont équipés de GPS. Donc en fait, les informations, elles sont collectées, elles sont archivées dans la balise et elles sont transmises à l'issue du déploiement.
C'est gros comment une balise, pour avoir une idée
Ça fait à peu près une petite pomme de main.
D'accord. Et on la met comment À quel endroit
Du coup, elles sont posées en sous-cutané sur le dos, un peu à l'arrière. Donc elles sont posées, on fait un double ancrage, c'est-à-dire qu'il y a une fléchette qui va vers l'avant et une fléchette qui va vers l'arrière pour les maintenir en position, pour essayer aussi de limiter le ballottement de la balise, tant en termes de, pour nous, qu'il y ait les risques d'arrachage qui sont liés au fait que c'est une espèce assez dynamique, mais aussi ça permet d'éviter à l'animal d'avoir un fardeau qui ballotte.
Ouais, quelque chose qui la gêne, quoi. Et donc, faut les attraper, donc du coup, en fait.
On les pêche.
Ouais. Donc, on les attrape, on leur met la balise. Et donc, elles vont garder cette balise combien de temps? Enfin, ça doit dépendre des individus, j'imagine.
Alors, il y a la théorie, puis après, il y a la pratique. C'est qu'en fait, quand on fait ce genre de déploiement sur du vivant, on planifie. Donc là, nous, on les a planifiés pour un an. Et après, il y a beaucoup d'impondérables qui sont liés parfois à la balise, mais parfois aussi à l'environnement, des épisodes de vie de l'animal qui font qu'elle se décroche prématurément. Donc à l'heure actuelle, on en a une seule qui a fait les 1 an complet. On est plutôt sur au maximum sur du 6 à 8 mois et en moyenne, on est plutôt sur du 4 mois.
Et vous avez réussi à baliser combien d'individus?
On en est à 19 individus. Donc ça paraît pas beaucoup. Mais quand on travaille sur du vivant, sur des gros animaux comme ça, qui sont aussi très durs à attraper, enfin en fait c'est des animaux qui sont quand même durs à observer, c'est assez important, c'est un nombre qui est assez conséquent.
Donc elles ont été, c'est que des femelles, hein, c'est ça, les 19. Et qu'est-ce qu'on a déjà pu savoir, parce que là j'imagine que toutes les données n'ont pas été analysées, hein. Si, ça y est.
On les a toutes.
Bon,
donc,
super.
Il y a des analyses à finir, mais au moins pour les premières parties, on a pas mal de résultats.
Alors, allons-y.
Et donc, notamment, donc le fait que le déploiement ait été courté, on ne peut pas mettre en évidence tout ce qui est les aspects de migration, parce que la migration, ça se prouve par la récurrence du phénomène et par le fait que de nombreux animaux le font. En revanche, on a à peu près pour toutes la période hivernale qui est couverte, donc la période où... on a vu ailleurs qu'elles partaient dans l'océan vivre leur vie. Et ben non.
Eh ben là, non.
Pas les nôtres.
Voilà. Sauf, il y en a deux, je crois, qui quand même ont fait des petites escapades. Enfin, donc, pas si petites, d'ailleurs.
Donc, il y en a deux qui ont présenté, en fait, un déplacement qui s'apparenterait à ce qu'on a observé sur ailleurs. Donc, elles sont parties très loin. Donc, il y en a une qui est partie vers le sud de l'Islande et l'autre qui est partie vers le milieu de l'océan, au niveau de la dorsale océanique. Mais elles ne sont quand même pas restées très longtemps.
Oui,
c'est des excursions de 1 ou 2 mois.
Ouais, donc est-ce qu'on peut quand même parler de migration dans ces cas-là? Un peu, quoi, si, on ne sait pas. Ouais.
Non, je vais parler de déplacement par précaution parce que je ne connais pas les mécanismes sous-jacents à ce déplacement. Mais par contre, il y en a une, la balise s'est décrochée en plein milieu de l'Atlantique. Mais il semblerait qu'elle était sur le retour. Voilà, donc on ne saura jamais, mais elle avait l'air de revenir.
Okay.
Et celle qui est partie au sud de l'Islande, elle est revenue en mer d'Iroise. Elle a perdu sa balise en mer d'Iroise.
Bon, donc, vous l'avez trouvée
Et on a récupéré la balise.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le challenge, c'est de la récupérer. Si elle est perdue, enfin nous, par exemple, si on trouve une balise sur la plage, on pourra reconnaître que c'est une balise
Alors sur les balises, si vous en trouvez, alors là c'est génial, il faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui va être aux anges si vous récupérez une balise, parce que pour nous, c'est vraiment des pépites en termes d'informations. Parce qu'elles contiennent toutes les informations de l'archive, donc à 5 secondes, sur tout le temps où la balise a fonctionné.
Ouais.
Donc c'est,
ça permet de faire des super beaux schémas, quoi.
Des beaux schémas. Après, c'est beaucoup de données très lourdes, donc ça nécessite aussi beaucoup de travail de défrichage, mais c'est...
Il y a marqué quoi dessus
Alors dessus, souvent, il y a le numéro de la balise. Si par vous contactez le constructeur, ils sont capables d'identifier quel est le projet qui a la balise. Et puis souvent, donc nous, les nôtres notamment, c'est à l'association Apex. Et donc, il y a au moins l'adresse mail et je crois qu'il y a le numéro de téléphone.
Ah oui.
Voilà. Et après, les balises, souvent, après, après plusieurs années ou plusieurs mois dans l'eau, elles ont été un peu abîmées par les frottements. Mais si vous en trouvez, surtout, vous n'hésitez pas, vous contactez quelqu'un que vous connaissez, qui connaît, vous envoyez un message à Radio Évasion.
Ben oui.
On est toujours intéressé par récupérer ces balises, que ce soit les. Enfin, voilà, après, c'est celle des collègues, on les renvoie aux collègues. Hein,
oui, bien sûr. Mais... Ouais. Mais vous, alors, donc, vous avez récupéré les balises?
Oui, on en a récupéré 9.
Ah, ouais, d'accord. Mais vous savez quand même quelque chose des 10 autres qu'on pas été récupéré.
Voilà. Alors du
qu'est-ce que vous savez, ouais, là, dans ce cas-là.
Du coup, c'est vrai que là, c'est un peu le challenge technologique, c'est que quand on déploie la balise, on n'est pas sûr de la récupérer et du coup, on ne mise pas dessus.
Donc, en fait, c'est le bonus en fait, la balise.
Ah oui, c'est bonus.
D'accord.
C'est,
ok.
C'est bonus, c'est bonheur.
Ouais.
Et, okay. Et en fait, on prévoit le déploiement. Donc, à la fin du déploiement, la balise, elle va se décrocher toute seule, elle va se larguer, elle va revenir en surface et elle va émettre des informations au système Argos.
Quand même, il y aura quand même des informations.
Exactement.
D'accord.
Mais on est limité par un nombre de messages. Et donc, en fait, on doit scrupuleusement regarder qu'est-ce qu'on veut comme information de la balise.
Ouais.
Et donc, très souvent, on a des données qu'on appelle résumées. Et moi, j'ai beaucoup pour tous mes individus à la journée. J'ai le pourcentage de temps passé dans différentes classes d'eau ou classes de température. Donc, classe, c'est par exemple de 0 à 5, de 5 à 10. Et donc, en fait, moi, je récupère une info résumée, c'est-à-dire que je ne connais pas...
pas toutes les 5 secondes, quoi.
Pas toutes les 5 secondes, je ne connais pas dans le détail, mais je sais qu'un jour, elle a passé 50% de son temps à 30 mètres ou 75% de son temps entre 0 et 5. Voilà. Donc, c'est une information qui est, on va dire, résumée, donc un petit peu dégradée en termes de qualité, mais qui est quand même très importante. Et voilà, après, il y a des aléas aussi dans l'émission des messages qui fait qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Mais voilà.
Ouais. Et donc, celles qui sont restées dans le coin, on va dire, comment elles se sont déplacées, qu'est-ce qu'elles faisaient, en gros?
Non, on ne saura jamais réellement qu'est-ce qu'elles faisaient, même si j'aimerais bien savoir être une petite souris.
Ouais, on les entend pas mastiquer des chinchards et tout ça, quoi. Malheureusement.
Non, on n'entend pas, on n'entend pas. Ça... Mais c'est à creuser comme idée.
Ouais, ce serait pas mal. Hein.
D'écouter autour. Donc, en fait. Pour les données qui sont, on va dire, un peu résumées, donc les données envoyées par l'Argos que j'ai pour tous mes individus, donc j'ai pu identifier une zone principale dans laquelle elle reste et qui semble assez importante. Donc avec on a pas mal, on va dire, d'incertitudes liées au positionnement, qui est en fait essentiellement basé sur les indicateurs de lumière. Elles sont principalement en manche.
Mmh.
Donc elles passent, il semblerait qu'elles passent énormément de temps en manche.
Donc, d'où leur surnom, les manchoises.
D'où leur surnom, les manchoises. Mm-hmm. Et d'où le fait que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire qu'elles partent pas, elles restent.
Mm-hmm.
À un moment où on s'attendrait à ce qu'elles partent, elles restent. Voilà. Donc, après, j'ai un peu regardé sur les balises archives pour voir un peu, pour celles qui étaient restées, qu'est-ce qu'elles faisaient. Parce que du coup, les balises archives, je peux savoir ce qu'elles font à 5 secondes. Alors, ce qu'elles font. Je peux savoir à quelle profondeur elles sont à 5 secondes. Et donc, en fait, j'ai ce qu'on appelle des profils de profondeur et donc des profils plus ou moins de plongée. Même si, bon, plongée pour un animal qui n'a pas besoin de respirer et qui n'est pas dépendant de la température.
Oui, ça ne veut pas dire grand-chose, on va dire, quoi. Mais disons qu'elles vont vers le fond, on va dire ça.
Oui, alors en fait, justement, non, parce que comme c'est des endothermes, l'avantage de travailler avec des ectothermes, c'est qu'ils plongent aussi. Parce qu'en fait, quand ils vont faire des incursions dans les eaux froides, ça va avoir un profil de plongée, puisqu'ils ne vont pas pouvoir y rester longtemps parce que c'est trop froid.
D'accord.
Et donc, ils vont revenir. Donc, nous, là, on est sur un endotherme qui peut faire strictement ce qu'il veut.
Donc, elle séjourne au fond ou elle séjourne un peu plus, moins,
exactement,
moins au fond. Parce qu'il y a des espèces de poissons différentes aussi, selon les profondeurs, c'est ça?
Il y a ça, et puis il y a surtout un grand phénomène généralisé un peu dans le milieu marin, donc que font pas toutes les espèces, mais il y a énormément d'espèces qui font la migration verticale journalière. C'est-à-dire qu'en fait, avec la diminution de la luminosité du jour, on va avoir des espèces qui sont au fond de la journée, qui vont remonter vers la surface, et ensuite qui vont redescendre quand le soleil va se relever. Donc, en fait, c'est un compromis très simple entre le fait qu'elles doivent s'alimenter aussi sur leur proie sans s'exposer à leurs prédateurs. Et en fait, avec la lumière, le soleil venant par au-dessus, ça fait des ombres. Et donc, c'est pour ça que le ventre des poissons est blanc et qu'il est sombre sur le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, par en dessous...
Leur prédateur, c'est nous, c'est ça, pour les requins taupes, non?
Pour les requins taupes, essentiellement. Mais eux, ils vont avoir besoin de chasser, donc ils vont aller chercher les poissons.
D'accord.
Et en fait, en gros, on sait qu'il y a un gros mouvement de proies et de prédateurs, enfin, toute la chaîne alimentaire qui va du fond vers la surface
Donc c'est épipélagique, c'est ça ce qu'on appelle l'épipélagique et le mésopélagique, c'est ça?
Alors exactement, dès qu'on est sur des grands fonds, donc avec plus de 200 mètres de fond, on va avoir l'écosystème mésopélagique, donc les espèces qui sont dans le mésopélagique.
Et qui sont tout le temps, quoi.
Et qui sont tout le temps, qui vont potentiellement remonter dans l'épipélagique et donc se retrouver aussi accessibles pour toutes les espèces qui sont entre 0 et 200 mètres.
Et c'est quel genre de poisson
Et bien, c'est un peu tout, on va avoir les poissons classiques pélagiques, on va avoir aussi du calamar. C'est vraiment un phénomène. On est plutôt sur des gros poissons. C'est-à-dire, c'est pas les petits pélagiques. Les petits pélagiques sont plutôt en surface. Mais c'est l'ensemble en fait de la nourriture se trouve dans la zone mésopélagique en fait.
D'accord. Mais migre de temps en temps vers le haut, quoi.
Et migre avec les variations de lumière.
Et donc c'est 200 mètres la frontière entre guillemets.
Alors oui, c'est une frontière qui est un peu, elle est pas arbitraire, mais c'est aux alentours de 200 mètres avec des variations à la marge, de la même façon que dans le mésopélagique, donc en fait la zone dans laquelle il y a énormément de nourriture, on appelle ça la Deep Scattering Layer, parce qu'en fait ça a été identifié par les sous-marins au moment de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça fait un écho sur les sonars.
Ah oui, donc c'est comme des gros bancs de poissons, enfin c'est ça quoi.
En fait il y a des gros bancs de plein de choses.
Plein de choses.
On sait pas on sait pas qu'est-ce qui fait l'écho acoustique. Mais c'est quelque chose qui est observé et donc qui est très suivi par ensuite les éco-sondeurs des bateaux de recherche qui vont essayer d'analyser. Et c'est comme ça que, en suivant l'évolution de cette couche acoustique, ils ont pu mettre en évidence le fait que cette couche allait remonter vers la surface la nuit et qu'elle redescendait le jour. Et en fait, cette couche, elle est en général entre 500 et 700 mètres, mais ça arrive qu'elle soit plus haut. D'accord. Ça dépend en fait des paramètres environnementaux, oui. Température, courant.
Donc ces requins qui se nourrissent de tous ces poissons, elles trouvent à manger toute l'année. Enfin, c'est l'hypothèse la plus basique qu'on peut émettre, c'est qu'il y a assez de poissons finalement pour elles en manche.
Bah, il semblerait surtout que, vu leur alimentation qui paraît quand même assez variée, elles sont finalement assez opportunistes, on va dire. Donc opportunisme, ça veut juste dire que ça mange ce qu'il y a. Et donc en fait, n'étant pas spécialisées dans une proie en particulier, elles sont capables de manger de tout. Il semblerait quand même, en anglais, on les appelle les mackerel sharks. Donc mackerel, c'est un peu comme en français, c'est macro. Il semblerait quand même que les mouvements de macro aient pas mal... c'est là d'où vient son nom, c'est que ça a été... Les requins ont été beaucoup vus en association avec le macro ou des zones avec une grosse densité de macro.
Ouais, c'est l'espèce dominante de leur alimentation, quoi, le macro.
Fort probablement.
D'accord.
Fort probablement.
Donc, et sinon, alors, elles se déplacent donc en profondeur, elles font des sortes de zigzags en profondeur et vers la hauteur. Et pareil, est-ce qu'elles zigzagent dans l'autre sens
Ouais, alors j'aimerais bien pouvoir parler de l'horizon, de la dimension horizontale.
Hein, c'est ça, voilà, merci.
La deux dimensions. Malheureusement, en fait, on a une position toutes les 12 heures.
Ouais, ça suffit pas.
Qui est une estimation. Donc, en fait, j'ai plutôt des carré dans lequel j'ai une probabilité de présence. Donc j'ai pas vraiment une position directe, mais effectivement, normalement, toutes les études qui portent sur des déplacements et qui utilisent le GPS, maintenant il y a des résolutions extraordinaires qui permettent justement l'analyse des zigzags pour identifier des comportements de trajectoire directe, par exemple, et des mouvements de prospection. Par exemple. Un peu comme nous, quand on va au travail, on y va en trace directe.
Parce qu'on sait où on va.
Parce qu'on sait où on va, voilà. Et quand on revient, on peut revenir en trace directe, mais on peut aussi s'arrêter, faire des courses.
C'est ça.
Et là, on va piétiner dans une toute petite zone avant de repartir sur notre
travail. Ah oui, donc elles font ça, on le voit quand même, on peut
alors
le constater.
Non, justement, je ne peux pas voir. C'est d'accord. Ce que j'aimerais bien voir, mais ce n'est pas possible technologiquement.
Ah ouais, même quand on a récupéré une balise... à la fin,
En fait, l'incertitude, elle porte sur la reconstruction de la position.
Ouais, d'accord.
Et la reconstruction de la position, en fait, ça fait partie des objets de recherche en ingénierie de la donnée pour essayer d'améliorer et d'affiner, en fait, justement, ces géolocalisations.
Mais comme elles sont dans la Manche, on peut vraiment dire qu'elles sont côtières, ces requines.
Oui.
Parce que c'est quoi un poisson côtier? C'est à partir de quelle distance de la côte, en gros?
Alors, côtier, moi, j'avoue, je suis toujours un peu...
Elles font du longe-côte, quand même, pas loin, quoi.
Déjà, j'ai pas les mêmes concepts de côtier que mes collègues qui travaillent réellement en côtier.
Oui, j'imagine.
Sur le pélagique. Ouais. Donc, effectivement, pour moi, côtier, quand il y a 80 mètres de fond, c'est pas grand-chose, elles sont quasiment à la côte. On m'a fait la réflexion et c'est pas faux qu'effectivement 80 mètres, déjà l'homme n'y va pas.
Oui.
Donc le côté, ça pourrait être plutôt 30 mètres. Donc voilà, c'est un compromis entre la distance à la côte et la profondeur, parce que par exemple en Méditerranée, parce qu'on n'a pas ça en Atlantique ni en Manche, mais en Méditerranée, on peut aller à 100 mètres des côtes et se retrouver avec 2500 mètres de fond.
Ah oui, oui.
Donc en fait, la frange côtière, elle est extrêmement réduite. Pourtant, on n'est pas loin des côtes. Mais on ne peut pas qualifier de côtier une zone où les profondeurs sont supérieures à 200 mètres.
Oui, mais pour elle, c'est intéressant que ça ne soit pas trop profond, quoi, en fait. En termes de dépenses d'énergie, justement, et de...
Eh bien, en fait, je pense, j'avoue que là-dessus, j'ai plutôt des hypothèses sur le fait qu'elles trouvent leur alimentation. C'est des opportunistes et il y a des anciens papiers des années 1800 qui racontent que les pêcheurs les observaient au cul des chaluts ou à l'arrière des filets et qui mangeaient en fait ce qui était rejeté par les bateaux. Vous savez, la Manche étant très exploitée, ça pourrait être aussi une explication. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de bateaux de pêche qu'elles peuvent s'alimenter sur les rejets de pêche.
Pour l'instant, il n'y a pas d'observation en ce sens de la part des pêcheurs. Enfin,
non, pas eu alors la seule observation qu'on a, c'est quand elles viennent faucher les maquereaux dans les bas de ligne, dans le Trégor. Mais sinon, on n'a pas d'informations particulières sur pourquoi est-ce qu'elles seraient résidentes en Manche. Après, on sait qu'il y a quand même un phénomène mondial de raréfaction des ressources maritimes. Et qu'en fait, clairement, même si on ne le voit pas, il y a de moins en moins à manger au large.
Voilà. Bon, et ben, pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Et puis, on verra bien si, dans 6 mois, je ne sais pas, s'il y a encore des résultats nouveaux. Merci beaucoup, Sandrine Serre.